J'aimerais, pour rentrer dans notre méditation, vous parler de l'apôtre Pierre. Vous connaissez tous l'apôtre Pierre, cet homme un peu bourru, un peu brut de décoffrage, celui où Jésus a dit, il faut que j'aille souffrir beaucoup, et qu'il lui a dit, non, non, t'inquiète pas, ça ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan, tu ne fais pas la volonté de mon Père. Ce même homme qui a dit, je t'accompagnerai jusque dans la mort, Jésus, Seigneur, je t'accompagnerai jusque dans la mort. Puis vous savez que le lendemain, quand Jésus a été confronté au tribunal, Jésus a été renié 3 fois par Pierre. Alors il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce monsieur. Une chose que je trouve formidable de ce grand serviteur, c'est qu'au moment où il a été réhabilité, le Seigneur lui rappelle, Pierre, m'aimes-tu? Une fois, deux fois, trois fois, comme pour lui rappeler, tu m'as renié 3 fois, mais moi je te demande 3 fois si tu m'aimes. Puis à chaque fois, le Seigneur lui dit, fais paître mes brebis, tu vas prendre soin de mes brebis, comme pour lui dire, je te réhabilite, mais j'efface ce qui s'est passé, mais je te réhabilite, mais en plus de ça, je te confie quelque chose d'important. Et sur ce passage-là, il y a ce passage biblique. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture où tu allais, où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu, puis il lui dit, suis-moi. Selon la tradition chrétienne, Pierre est mort crucifié, la tête à l'envers. Eh bien, Pierre est bien mort en martyr. Et sur ce passage-là, juste après, enfin, sur ce passage-là, déjà, il y a beaucoup de choses à se dire. La première chose, c'est, vous imaginez que Jésus en personne dit à Pierre, tu vas mourir persécuté pour révéler ma mort. Moi, je me pose une question. Quand je lis ce passage-là, je me dis, si Jésus venait me dire, Anthony, ta vie se finira par une horrible persécution, aurais-je toujours envie de suivre? Alors, on a Pierre, un peu fuyant, qui dirige probablement sa main vers Jean, l'apôtre que Jésus aimait, et lui dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que moi, je veux bien souffrir, mais pas tout seul. Puis, comme je sais que tu aimes bien Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Si je veux, et Jésus répond, si je veux revenir, si je veux qu'il soit encore là le jour où je reviens, il sera là. Toi, que t'importe, toi, suis-moi. Et là, il lui dit, suis-moi une première fois, tu vas mourir en martyr, suis-moi, et puis ne regarde pas à Jean, toi, ta seule préoccupation, c'est de me suivre. Et quel serviteur, Pierre? Quel magnifique serviteur. Une mort pénible l'attendait, mais il a été un magnifique serviteur et on peut rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a fait à Pierre. Pierre a écrit une lettre destinée à des chrétiens d'Asie mineure, donc des chrétiens de Turquie actuelle, et c'est exactement la première lettre de Pierre au chapitre 1. Et nous allons lire ensemble. Et je vais lire avec vous, comme ça au moins on a la même traduction. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Je fais une pause magnifique. Excellent. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer un peu de décortiquer tout ça. La raison de l'épreuve. Alors, tout d'abord, que signifie le chapitre 1er ? Le chapitre 1er nous parle beaucoup d'espoir. Pierre rappelle aux croyants leur position bénie et Pierre veut enseigner aux croyants d'Asie mineure leur responsabilité et leur devoir de disciples à vivre dans un monde comme des étrangers au milieu de la persécution. Soit au chapitre 1, mais également au chapitre 2, au chapitre 4, Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires. Et ce que nous apprenons sur ce chapitre 1er, même sur cet épître, c'est que nous ne sommes pas des résidents définitifs sur cette terre, nous sommes des résidents temporaires. Alors, en tant que résident temporaire, et ce que nous dit Pierre dans ce chapitre, mais également dans la partie du livre, c'est que nous risquons probablement de subir une opposition du monde. Suivre le Christ, c'est aussi être prêt à passer par l'épreuve du feu. Alors la raison de l'épreuve, la raison pour laquelle ces lecteurs sont dans la souffrance, c'est parce qu'ils aiment Dieu. On l'a vu hier avec la Corée du Nord. Vous ne pouvez pas, dans un tel niveau de persécution, vous engager pour Christ si vous n'aimez pas Dieu. Et la raison principale pour laquelle ces lecteurs sont persécutés, c'est parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils sont en Christ. Alors, il nous est parlé d'épreuves dans ce passage. Ce sont des épreuves qui sont là pour ébranler notre foi, qui sont là pour la mettre à l'épreuve, mais ce ne sont pas des épreuves qui sont des conséquences de nos mauvaises actions. Bien entendu, si vous faites du 150 km/h sur un centre-ville à 50 km/h, et que malheureusement, et c'est ce qui pourrait arriver, vous renversez une petite fille, cette épreuve-là, vous la devez à cause de votre désobéissance. Donc ce n'est pas vos mauvaises actions, ce n'est pas la conséquence de mauvaises actions dont il est question, mais c'est tout simplement une foi qui vient, et c'est tout simplement une épreuve qui vient ébranler notre foi. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation, si c'est parce que vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas responsable de ce qui peut vous arriver, alors n'ayez pas honte et rendez gloire à Dieu. On va revenir au passage, au verset 3. Juste, je reviens. Ici. C'est marrant parce que Pierre commence par cette reconnaissance. « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. » Il va nous parler de choses difficiles, mais une des premières choses dans laquelle Pierre veut nous encourager, veut encourager ces chrétiens d'Asie mineure, il veut les encourager à dire « Vous êtes en Jésus-Christ et nous pourrons rendre gloire à Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. » Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et nous avons un héritage qui nous attend, une espérance vivante, parce que nous avons un héritage qui ne peut pas se corrompre, se souiller, qui ne peut pas se détruire. Nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous avons une espérance vivante et une réserve de biens qui ne disparaîtront pas. Pierre, dans sa première chose, avant de parler de l'épreuve, il veut rappeler à ses lecteurs que nous sommes bénis en Jésus-Christ et que nous avons toutes les raisons de rester dans la foi, d'être dans la foi, et de poursuivre Jésus-Christ, le regard rivé sur une espérance vivante. Dans cette introduction de Pierre, béni soit Dieu, en nous rappelant toute notre position bénie, il est bon de se rappeler pourquoi nous sommes prêts à souffrir. Nous avons obtenu le salut pour prix de notre foi, notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, nos péchés sont pardonnés et nous le prenons volontiers. Merci Seigneur Jésus. Mais vous savez, dans la croix, c'est comme s'il y avait deux faces, les deux faces de la croix. Je prends le salut de Jésus-Christ, je suis lavé de mes péchés, mais il y a aussi derrière une deuxième face qui est de porter sa croix. Je ne peux pas vivre une vie en Christ si derrière, je ne peux pas porter aussi quelques souffrances qui en découlent. C'est ce que vivent nos frères et sœurs qui sont persécutés. Alors, si du coup, je dois être heureux de mon salut, et je suis heureux de mon salut, et rappelez-vous que vous devez être heureux de votre salut, mais si jamais un jour, il y a une épreuve qui vient ébranler ma foi, est-ce que ma confiance en Dieu a-t-elle des limites ? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus ? C'est très important, ça. Parce que si je dis, je suis sauvé, je prends le meilleur, mais quand vient le pire, le difficile, le parfois ce qu'on pourrait considérer comme inatteignable, j'abandonne tout, qu'est-ce que vaut ma foi ? Qu'est-ce que vaut mon engagement ? Le jour où je me suis baptisé ? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus ? Ça, c'est très important parce que nous, à Portes Ouvertes, moi le premier, je n'ai aucune prétention à vous dire que j'ai une grande foi et que si la persécution venait maintenant, je serais capable. Je refuse de passer cela. Mais, comme je disais hier, le Seigneur équipe les frères et sœurs quand ils sont confrontés à l'épreuve et ils les confrontent d'une manière exceptionnelle. C'était le témoignage de Maïn, une Iranienne. Son mari a été enlevé, a été arrêté par la police iranienne. Et elle disait, Seigneur, si je dois être arrêté, ne le permets jamais, sinon je te renie. Ah, c'est pas compliqué, je ne résisterai pas, je te renierai. Je trouve ça très honnête. Le jour où elle a été arrêtée, elle dit, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je n'ai eu de cesse de parler de Jésus-Christ. Il me fallait parler de Jésus-Christ comme un refuge, comme pour me protéger. Je parlais de Jésus, je me suis retrouvé devant les juges et j'ai parlé de Jésus. Le Seigneur équipe autant de l'épreuve. Mais parfois, l'épreuve est là pour nous rappeler, pour nous amener à considérer quelle est la valeur de notre foi. Vous avez ce petit passage ici. Après que Pierre ait dit, voilà, vous avez le salut, une espérance vivante, il nous dit, c'est là ce qui fait votre joie. Oui, c'est ce qui fait notre joie. Mais d'un seul coup, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ah, ça marque une différence. Autant j'étais béni, autant j'avais le salut, j'avais cet héritage exceptionnel qui m'attend au ciel, j'avais cette espérance vivante. Et puis, Pierre, il nous dit, quoique maintenant, c'est le temps de l'épreuve. C'est un temps qui arrive de manière soudaine. Elle n'est pas sans maîtrise, hein. Puisqu'il le faut, le verbe falloir qui signifie dei, qui signifie une nécessité divine. C'est très intéressant. Parce que dans ce passage-là, c'est Dieu qui permet, voire même Dieu qui voudrait qu'on passe par cette épreuve. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez que c'est dichotomique quand même. D'un côté, c'est là ce qui fait notre joie, et puis on doit être attristé par diverses épreuves. Mais dans cette phrase qui est super importante, il y a la souveraineté de Dieu et il y a la maîtrise de Dieu. C'est maintenant, c'est voulu de Dieu, parce qu'il le faut. Ah, il y a une nécessité, on va être attristé, c'est vrai, mais pour un peu de temps, un temps maîtrisé par Dieu, par diverses épreuves. Vous avez ce frère ici, qui s'appelle Avdresh, que j'aime beaucoup, c'est un pasteur de sa communauté en Inde. Et vous avez ici le RSS, où vous avez ici nationaliste hindou, qui scande l'Inde aux hindous, l'hindoutva, hein. Donc interdiction d'être chrétien, interdiction d'être musulman. Et puis ce pauvre frère, il s'est fait attraper dans son église, il est pasteur d'une petite communauté, et ils l'ont frappé, ils l'ont humilié de telle manière que je ne peux pas décrire, ils l'ont obligé à boire de l'urine de bœuf, de l'urine de vache, et soi-disant pour le purifier, et puis ils l'ont mis dans la région où il vit, ils l'ont mis sur un âne, et mettre quelqu'un sur un âne, c'est une humiliation suprême. Chez nous, ça ne nous dérangerait pas, mais là-bas, c'est une humiliation suprême. Et en plus, vous voyez, ils ont rasé une partie de sa barbe, de son crâne, et ils l'ont humilié devant les frères en Christ, ils l'ont humilié devant toute la communauté, devant tout le village où il est. Quelle humiliation ! Nous avons retrouvé frère Avdresh Et nous lui avons demandé, frère, pourquoi ils t'ont fait subir tant d'humiliation? Vous savez, on arrive parfois, on a un peu de peine. Et il dit, je ne veux rien entendre. Mon Seigneur et mon Jésus, lui aussi, il est monté sur un âne. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Pourquoi aurais-je honte de monter sur un âne alors que mon Sauveur, mon Seigneur, lui aussi est monté sur un âne? Il nous a fait taire, comme pour dire, j'ai souffert, mais je ne vais pas me plaindre. Parce que cette épreuve de foi que j'ai subie, elle n'est rien en comparaison de ce qui m'attend. Alors oui, c'était maintenant le temps de l'épreuve parce qu'il le fallait et parce qu'il fallait aussi que frère Ravdresh puisse témoigner à ses frères et sœurs qu'il n'avait pas honte d'avoir été humilié puisqu'il savait qu'il était aimé par Jésus-Christ. Alors, pourquoi? Pourquoi doit-on nous passer par des temps d'épreuve? Pourquoi, selon ce passage, les chrétiens de Turquie, d'Asie mineure, vont passer par ce moment-là? Il faut savoir que dans le contexte, Pierre va mourir peut-être 2 ans ou 3 ans après avoir écrit cette lettre. Et au moment où il l'écrit, c'est les persécutions de Néron à Rome. Et on sait que ce qui va concerner Rome va concerner tout l'Empire romain, y compris la Turquie, l'Asie mineure. Et donc il a écrit cette lettre pour fortifier les chrétiens qui vont aussi probablement vivre aussi des temps difficiles, aussi difficiles qu'à Rome. Alors pourquoi, si nous avons la joie de Jésus-Christ, pourquoi, quel est le but en fait de maintenant? Pourquoi Seigneur tu permets que je passe par l'épreuve? Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois attristé par diverses épreuves pour un peu de temps? Je veux bien tout ça Seigneur, mais pourquoi? Et la réponse vous l'avez ici. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Cette phrase, elle est importante parce qu'elle nous explique pourquoi, de temps en temps, des fois, nous passons par l'épreuve et pourquoi cette épreuve vient ébranler notre foi. Parce que la valeur éprouvée de notre foi, elle est beaucoup plus précieuse que l'or. Et attention, c'est pas notre foi seule qui est plus précieuse que l'or, c'est notre foi qui est éprouvée, qui a de la valeur. C'est pas pareil. Parce que si je suis chrétien et que tout va bien, et que je n'ai aucun défi de ma vie, que je n'ai aucune épreuve, aucune souffrance, ma foi n'est pas testée, ma foi n'est pas mise en exergue, et comment pourrais-je savoir où est ma confiance en Dieu? Mais quand ma foi, elle est mise à l'épreuve, il y a forcément des choses qui se passent. Et alors vous avez toute une image ici. Ma foi, lorsqu'elle est éprouvée, elle a une valeur, et cette valeur, nous dit la parole, c'est qu'elle est plus précieuse que l'or que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Donc on nous compare l'épreuve, notre foi mise à l'épreuve avec de l'or qui est mise à l'épreuve du feu. Et cette image, elle est très intéressante. Au temps antique, et même encore aujourd'hui, on utilise une méthode en bijouterie qui s'appelle la méthode de la coupellation. On prend un creuset, donc à l'époque antique, on prend un creuset en os, poreux, hein, qui absorbe, c'était donc un creuset en os, et on met un or brut dedans, hein, donc qui sort tout simplement d'un caillou, hop, et on le fait chauffer à plus de 1000 degrés. Cet or fond, et qu'est-ce qui se passe? On voit les impuretés, toutes les impuretés du minerai qui ressortent et qui sont agglomérées autour du creuset. Mais parfois, il reste des impuretés de différentes matières qu'on ne sait pas, qui restent encore dans l'or. Et quand on veut faire une bonne purification, on va rajouter un petit morceau de plomb dedans. Il va y avoir une réaction physique ou chimique, je ne sais pas très bien. Et cette réaction, c'est que les impuretés vont remonter à la surface et il va y avoir un feu qui se fait sur la surface du feu. Et ce feu-là va définitivement brûler les impuretés. C'est ce qu'on appelle la méthode de la coupellation. Et quand Pierre nous parle de cette épreuve de notre foi éprouvée plus précieuse que l'or, c'est cette image que vous avez ici, où si notre foi c'est de l'or, elle est parfois remplie d'impureté, et l'objectif de l'épreuve, c'est d'enlever les impuretés, c'est de nous purifier. Qu'est-ce que notre foi pourrait avoir besoin d'être purifiée? Essayons de faire une petite liste non exhaustive. Est-ce que peut-être j'ai tout simplement des péchés qui m'empêchent de vivre une foi en Jésus-Christ, qui m'empêchent d'avoir entièrement confiance en Jésus-Christ? Est-ce que c'est peut-être une amertume envers quelqu'un, un manque de pardon qui m'empêche d'avoir totalement confiance en Jésus? Est-ce que c'est peut-être une peur inexplicable. Moi, j'étais, il y a quelques mois encore, quelqu'un de très peureux sur des choses peut-être que vous trouvez ridicules. Merci Seigneur de m'en avoir délivré, mais parfois, on a des choses où on se dit, mais que vaut ma foi? Si j'ai peur pour ça, quelle est ma foi? Alors peut-être que, et je suis persuadé que dans ce passage-là, le Seigneur nous explique que notre foi, elle est mise à l'épreuve pour enlever les impuretés qui nous empêchent d'être libres dans la foi, qui nous empêchent de vivre pleinement notre liberté en Jésus-Christ. Parce que si j'ai un péché que je n'ai pas réglé, je ne suis pas libre. Parce que si j'ai une amertume que je n'ai pas enlevée, je ne suis pas libre. Si je n'ai pas pardonné à quelqu'un, je ne suis pas libre. Parce que si j'ai des craintes qui m'empoisonnent et m'empêchent de respirer et de me réjouir de la liberté en Jésus-Christ, je ne suis pas libre. Et voilà que l'épreuve, quelle qu'elle soit, elle est là pour, comme cette méthode de la coupellation ici, nous prendre et purifier de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre notre liberté totale en Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a une autre image. Quand cet or, elle est fondue, parfois elle est belle, elle est toute fondue, liquide, eh bien, vous pouvez la manier et lui donner la forme que vous souhaitez lui faire prendre. Là, c'est un lingot d'or, mais en finalité, ça peut être un bijou, une bague ou autre chose. Et quand le Seigneur nous fait passer par l'épreuve du feu, c'est que non seulement il veut nous purifier de ces choses qui nous empêchent d'être libres en lui, mais en plus, il veut nous donner la forme qu'il veut qu'on ait. Il veut nous modeler à son image. Et ça, chers frères et sœurs, ça s'appelle la sanctification. Je suis purifié d'épreuve après épreuve. Je suis modelé à l'image de mon Seigneur pour lui ressembler. Et je trouve ça magnifique, parce que c'est pas moi qui me sanctifie, c'est le Seigneur qui me sanctifie, c'est le Seigneur qui me purifie. Au temps de l'épreuve, chers frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous passez, car elles produiront la patience, la persévérance ou l'endurance. Mais il faut que la patience, l'endurance, la persévérance aillent jusqu'au bout des choses, afin que vous soyez des hommes faits auxquels il ne manque rien, des hommes faits auxquels il ne manque rien. Alors les épreuves, elles se vivent tout au long de la vie, qu'on soit dans sa jeune conversion, qu'on ait 50 ans de conversion, hein, il n'y a pas d'âge. Mais en tout cas, au travers de ces moments-là, le Seigneur a quelque chose à nous apprendre, a quelque chose à nous enlever. Et plutôt que de toujours « Ouais, pourquoi je vis ça ?» etc. Et ça m'est arrivé, hein, je vous le dis, ça m'est arrivé. « Pourquoi je vis ça ?» etc. Peut-être « Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener ? Quelles sont les choses dans mon cœur que tu veux m'enlever ? Est-ce que Seigneur, en me plaignant, je ne suis peut-être pas en train justement de rater le but dans lequel tu as fixé pour que je puisse me rapprocher de toi. Non, Seigneur, dans l'épreuve, dans cette épreuve, elle est difficile, mais je vais me rapprocher de toi parce que tu as quelque chose à m'apprendre. Tu veux me purifier de quelque chose, tu veux me modeler. Et moi, je veux passer cette épreuve avec toi, pas sans toi. Et si je me plains, ça sera sans toi. Mais si par contre, je me confie en toi, ce sera avec toi. Et de grandes bénédictions nous attendent, chers frères et sœurs. Ah, ça change ! Ça change du discours de la sinistrose qu'on a dans le monde. Alors oui, nous sommes bénis en Jésus-Christ, nous avons la vie, la joie éternelle, nous avons une espérance vivante, accrochez-vous à ça, parce que c'est ça qui va aussi vous faire permettre, qui va vous permettre de tenir à l'épreuve. Je souffre, mais il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances que nous vivons sur terre et la gloire à venir, chers frères et sœurs. Et si je vis un temps d'épreuves difficiles, même horribles, il y a quelque chose derrière. Il y a une bénédiction, quelque chose qui va s'apprendre à moi, qui va se révéler à moi. Et puis je ne suis pas seul, j'ai les frères et sœurs pour prier.